belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous la propose avec un homme qui, depuis son plus jeune âge, est attiré par ce que l'on pourrait appeler le mystérieux. Il est avec nous aujourd'hui sur Radio FM+, pour nous parler de mystère, d'aura, de magnétisme et de plein d'autres choses. Bonjour Jean-Louis Cassin.
Bonjour Nathalie.
Jean-Louis, question d'usage dans cette émission, c'est quoi pour vous une belle rencontre ?
Ah, là on va déboucher sur plusieurs mondes. Une belle rencontre, évidemment, c'est physique. Mais également, derrière, j'en ai parlé un petit peu dans mon livre, il y a beaucoup de synchronicité. La synchronicité, c'est ce monde invisible qui nous entoure et qui nous dirige un peu nos pas dans la vie. Et nous avons derrière une belle rencontre, ça peut déboucher sur un emploi, ça peut déboucher sur un couple qui s'unit, ça peut déboucher sur tout un tas de choses différentes. Et en principe, ces belles rencontres marquent la vie des personnes. On se souvient de ces choses-là. On ne sait pas comment, alors est-ce que c'est le hasard ? J'aime bien ce que disent les musulmans, ils disent que le hasard n'est que l'ombre de Dieu. Moi, je suis dans ce monde-là. Est-ce que c'est vraiment lié à notre évolution ? C'est ce que je pense aussi. Et est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui nous dépasse ? Je suis aussi conscient de cela, évidemment.
Avec tous les gens que vous avez croisés dans votre vie, vous avez eu la chance d'en faire beaucoup, des belles rencontres ?
Oui, j'ai eu beaucoup de ce que j'appellerais de synchronicité, c'est-à-dire, vous appelez une belle rencontre, pour moi c'est synchronicité, c'est le terme qu'on emploie aujourd'hui, mais belle rencontre c'est beau quand même, parce qu'il y a l'humain derrière.
Je pense à Christophe par exemple, à un moment vous parlez de Christophe,
oui,
quand Christophe. Vous l'avez rencontré, voilà, c'est pour moi, même la façon dont vous le racontez dans le livre, c'est ça une belle rencontre
oui,
aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Les gens qui restent.
Tout à fait, et une belle rencontre, c'est ce que j'appelle moi les pierres blanches, et le soir quand je me recueille avant de m'endormir, il est évident que je pense aux événements de la journée, comme beaucoup de gens, puis je suis à la retraite, alors bon, j'ai le temps de penser à ça. Et pour moi, une belle rencontre, c'est une pierre blanche que m'a envoyé le ciel, c'est tout ce que je peux dire d'autre. Et on est ravis quand on a un truc comme ça, parce que ça débouche sur notre humeur, en principe ça nous met de bonne humeur, ça nous met dans de bonnes conditions, et nous sommes, à l'issue de cette belle rencontre, contents de ce que nous vivons.
C'est vrai que c'est rassérénant, une belle rencontre.
Absolument.
On a l'impression, moi des fois quand je vais sur les salons du livre, comme là où nous nous sommes rencontrés, dans un salon du livre, je vous rencontre ou je rencontre un auteur, et le soir je rentre et je dis à mon compagnon, aujourd'hui j'ai rencontré quelqu'un, j'aimerais te le présenter, c'est une belle rencontre.
Eh bien, je partage tout à fait votre point de vue. En fait, ton point de vue.
Ah voilà, nos points de vue. Jean-Louis, parlons un peu de vous. Vous êtes né dans le sud de la France, près d'Arles.
Ici c'est connu, je suis né à Tarascon.
Voilà, avec le bel accent. Près d'Arles.
Je l'ai encore, mon accent.
Ah oui, un petit peu, Jean-Louis.
Ah bon, c'est important. J'ai vécu 7 ans à Paris. Chaque fois, je croyais avoir perdu l'accent, mais il me disait, pêcheur, il est du midi. Ben oui, je suis du midi.
Moi, je crois que j'ai gardé mon accent parisien aussi. Ah, bon. C'est pas... Donc, vous êtes né dans le sud de la France, près d'Arles, à Tarascon, donc pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette enfance ? Vous la racontez dans le livre.
Oui,
donc... Et peut-être déjà nous parler de ces ombres qui troublaient vos nuits.
Oui, alors... J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui m'aimaient. Ils n'étaient pas riches, mon père était ouvrier, mais jamais maman qui m'aimait, mon papa qui m'aimait. Alors ces ombres, je devais avoir peut-être 4 ans à peine. Et le soir, quand je me couchais, je sentais des présences autour de moi. Et je savais qu'il y avait des morts. Et je me mettais à pleurer comme un enfant qui réagit dans cette situation-là. Et mon père venait me chercher, ou ma mère venait me chercher, et mon père dit « Ah, il a fait un cauchemar !» Et donc j'allais dormir dans le lit parental, et moi j'étais ravi, je trouvais mon équilibre. Alors, c'est très important ça, parce que si jamais vous avez des enfants qui ont des situations de ce genre, il faut prendre ça au sérieux, il faut écouter les enfants. Parce que quand on est enfant, on vit dans le monde invisible, on n'est pas encore bien dans le monde physique, et les enfants qui ont ce genre de situation, d'événements, il faut surtout leur donner beaucoup d'amour, parce qu'ils sont un peu déséquilibrés. Je n'ai jamais parlé de ça à mes parents, parce que je n'en éprouvais pas le besoin, et puis on ne peut pas en parler, parce qu'on pense qu'ils perçoivent les mêmes choses que nous, mais j'ai eu la chance, ma mère m'a donné beaucoup d'amour, donc j'ai eu cette réponse-là. Et donc, les enfants ont un rôle de médiumité plus ou moins. Ils rentrent dans ce monde invisible jusqu'à l'âge peut-être de 7 ans. Peut-être pas pour tous, mais pour certains. Et notamment, on voit un petit peu ces marques-là à travers l'ami invisible avec lequel jouent les enfants. Donc, les enfants, on dit, s'inventent un personnage. Ce n'est pas forcément un personnage qu'ils ont inventé. C'est quelque chose qu'ils perçoivent, quelque chose qui est autour d'eux, c'est quelque chose qu'ils ressentent. Ce que je voudrais dire avant tout, c'est que tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration. Et donc, évidemment, on l'oublie après, avec le monde, dans la société, bon, on voit son consommation et tout ce que vous voulez, mais tout n'est qu'énergie, tout n'est que vibration. Et un enfant va percevoir des vibrations que les adultes ne perçoivent pas. Un enfant va percevoir des mondes que peut-être les adultes ne perçoivent pas. Et dans ces conditions-là, eh bien, il faut les écouter. Bon, et puis après, essayer de les calmer, de leur donner l'amour qui est nécessaire. Tout n'est question d'amour, de toute façon.
Et à l'adolescence, ça, justement, le questionnement qu'il y a à l'adolescence aussi, l'adolescence n'est pas une période facile, ça éteint justement cette médiumité.
Oui, ça éteint cette médiumité, mais en général, les enfants qui vont dans ce monde-là développent ce que j'appelle la première qualité d'un être humain, qui se transforme en défaut dans notre société d'aujourd'hui, c'est la naïveté. C'est-à-dire qu'on a tendance à faire confiance à tout le monde, parce qu'on n'a pas d'arrière-pensée, on n'a pas de... on est naïf, on est nature, on va pas chercher le pourquoi et le comment. Et ces gens-là sont parfois déséquilibrés dans la vie. Alors après, il y a le problème scolaire. Bien sûr, dans le monde scolaire, c'est déjà le combat qui commence dans la vie. Et on peut être déstabilisé, bien sûr.
Et toute la première partie du livre, qui est passionnante d'ailleurs, elle témoigne de ça, de la compréhension de cette hypersensibilité que vous avez. Parce qu'il y a certains signes avant-coureurs qui se sont manifestés enfants, mais tout le temps de votre
alors,
vie.
Oui, après, on est basé sur le ressenti, qu'on ne sait pas décrire d'ailleurs. Le ressenti, c'est quoi? C'est une sensibilité, certains appellent l'intuition. Là, nous commençons à aborder le monde invisible, et il y a une grande difficulté quand on parle du monde invisible, parce que notre langage est programmé pour parler de choses que nous voyons, pour parler de notre vie, pour parler de choses concrètes. À partir du moment où on va dans le monde invisible, les ressentis que nous avons, ce sont des ressentis intérieurs, et les mots que nous utilisons ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'on voudrait dire. Et de là, on commence déjà moins bien se comprendre. Alors ce ressenti, se traduit par des prémonitions, ça se traduit par tout un tas de choses. Certains ont des flashs et ils ne comprennent pas trop pourquoi ils les ont et les autres ne les ont pas.
Ça, vous en parlez de ces prémonitions, notamment, vous répétez quand vous êtes petit que vous allez vivre à Paris, oui.
Ça a été contestable. Alors pourquoi, à l'âge de 4 ans, je commençais à peine à parler? Mes parents avaient un café à Tarascon qui s'appelait le Cercle de Sainte-Marthe. Dans le Cercle de Sainte-Marthe, j'étais déjà dans une tradition plus ou moins religieuse, mais nous, on a été toujours très tolérants dans ma famille. Et j'ai su, à l'âge de 4 ans, que quand je serai grand, j'irai à Paris. Comment, je ne le sais pas.
Et puis à Paris, vous rentrez chez IBM?
Non, je suis rentré chez Dassault Électronique d'abord.
D'accord.
Et après IBM. Bon, j'ai eu la chance d'avoir des sociétés, des masters, comme on appelle. Et j'ai rencontré un monde professionnel, surtout chez IBM, qui était très difficile.
Très difficile. C'est ce que vous racontez, hein.
Et en fin de compte, c'est là où on commence à voir que les égos de chacun s'expriment dans leur situation. Les égos de chacun s'expriment pour avoir leur avancement, pour avoir leur promotion, pour avoir ceci, cela, au détriment des autres. Et la valeur n'est pas toujours la référence de l'évolution, ça on est bien d'accord, mais parfois on a très mal. Alors avec cette naïveté que j'avais et que j'ai toujours conservée dans ma vie, je me souviens un jour même que mon chef, un chef au cours d'une réunion, il me dit surtout « Jean-Louis, ne change pas, conserve ta naïveté ». Et le paradoxe, c'est que cette naïveté mettait souvent en échec les pièges qu'on voulait me tendre. Parce que chaque fois, je comprenais en premier degré. Je n'essayais pas de comprendre ce qui était caché, d'ailleurs, de ce qu'on ne me disait pas. Et après, les gens, ils étaient un peu déconcertés. Donc, ça a été un argument qui m'a servi pour me défendre, mais un argument qui m'a servi pour être coulé aussi.
Oui, mais c'est là où arrive, d'ailleurs, quand vous parlez de votre mal-être à IBM, de refus de... quand on vous refuse de redescendre dans le midi, ou cette scène quand vous êtes au volant de la voiture et que vous dites « on m'a parlé ».
Ah oui, ça.
Qui est ce « on » Parce qu'il y a une chose qui me plaît, mais en définitive... Alors, pour tout vous dire, et être totalement transparente, moi, je suis un peu, autant sur le magnétisme et tout ça, je suis totalement persuadée que oui, autant sur les entités, les auras, tout ça, j'ai un petit peu de mal. J'avais reçu Nicole Cavinin qui avait écrit « Les ombres de lumière », et je suis... par nature, assez perplexe devant. Ce on, par exemple, il y a une phrase qui m'a vraiment frappée, c'est quand vous dites on m'a dit que j'avais la force en moi, et je me dis que, est-ce que c'est pas aussi votre voix intérieure qui vous l'a dit ? C'est compliqué, hein.
C'est très compliqué tout ça, Nathalie, ouais. Parce que ce sont des expériences vécues. Ouais. Alors, je veux déjà parler que dans mon livre, je ne parle que d'expériences vécues. C'est pas de théorie, hein.
Bien
donc,
sûr,
ce sont des
sûr.
Choses que j'ai vécues. Alors, comment c'est arrivé là? Avant tout, j'ai eu un harcèlement professionnel. Alors, figurez-vous qu'il a passé un temps, j'ai eu tous les honneurs, les awards, les primes, enfin tout ce qu'on voulait. On parlait de moi. Bon, j'avais réussi dans mon contrat social de la société. Et puis, subitement, j'ai cessé de plaire. Bon, apparemment, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré ces événements-là.
C'était quoi? C'était un chef ou c'était une politique de la société qui était de vous,
bah,
vous
peut-être les deux réunis. Les deux. Hein. Mm-hmm. Les deux, je pense que les deux étaient réunis. Mm-hmm. Mais bon, toujours pareil, dans mon mode, je ne voyais pas trop la finalité de tout ça.
Non, mais vous en parlez très bien, parce que c'est vrai que le livre aussi, il faut que les auditeurs le comprennent. Bien sûr que c'est un témoignage sur les chemins de la lumière, mais c'est aussi le témoignage d'un homme dans sa vie quotidienne et comment ce chemin de lumière lui arrive quelque part... Bah dans sa vie, c'est-à-dire que par exemple, vous parlez très bien du harcèlement au travail, quoi.
Ah c'est oui, vraiment... oui. Bah écoutez, je vous parle des années 70, alors évidemment, je suis un vieux monsieur maintenant. Et ce que je cherche dans ce livre, c'est transmettre tout ce que j'ai découvert. Et j'ai découvert des choses fabuleuses et inquiétantes d'ailleurs. Et je veux transmettre. Bon, j'ai écrit ce livre dans ce but. Je cherche ni gloire, ni argent, ni honneur. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce harcèlement professionnel, il me déstabilisait parce que j'étais dans une période de ma vie très compliquée. On faisait construire à Montpellier une villa. Bon. Sauf que quand on fait construire, on a des problèmes financiers. Tout le monde a ça. Pourtant, je pensais ne pas en avoir, mais bon, c'est comme ça. Ma fille aînée de 17 ans avait quitté la maison parce qu'elle voulait faire sa vie, comme elle m'a dit. Et moi, tout le matin, quand j'arrivais, j'avais ce harcèlement.
Vous étiez inquiet pour elle.
Alors, comment c'est le harcèlement? Il faut bien parler de ça pour que les gens comprennent. C'est, avant tout, on cherche à vous faire perdre confiance en vous. Donc on va vous mettre dans une situation où on va vous faire accepter que vous ne voulez plus rien, d'une manière générale. Donc on va vous démolir. Donc j'avais écrit un livre aussi en anglais à l'époque, bon, pour mon peu importe, dans
donc
le cadre de
bilingue.
Mon travail. En anglais, bon, je reprenais des infos, vous savez, mon niveau d'anglais est très faible. Hein, bon, je faisais ce que je pouvais. Et donc on commence à nous mettre dans une situation de travail pour nous créer des difficultés, artificielles bien sûr. On commence à faire ceci, et puis après, on va vous dire, il y a quelqu'un qui va arriver à la rentrée du travail, à la rentrée du restaurant, et qui dit, ben voilà, je suis venu là pour prendre ta place. Et allez, ça continue comme ça, ça continue comme ça. Et après, l'apothéose de tout ça, là, c'est cette sensibilité qui s'est révélée, puisque la première fois que je suis rentré dans le bureau de mon chef, j'étais tellement ébranlé que je me suis mis à trembler, il a vu qu'il se passait quelque chose. Moi, je savais que cet homme allait signifier ma perte.
Mais vous le racontez, encore
une fois, je vous raconte des choses vécues. Mmh. Comment j'ai eu ces informations-là, je l'ignore totalement.
C'était puis, palpable, votre angoisse.
Ah oui, oui,
palpable.
Mais c'était ressenti, c'était physique. Même mon épouse l'a ressenti à la maison au même moment. Alors donc, je savais que cet homme voulait ma perte, et puis après ça montait crescendo. On voulait à tout prix que j'accepte des situations qui étaient invivables pour moi. Et après ça s'est terminé par un entretien dans une cage vitrée, au milieu de plusieurs personnes qui étaient autour. Donc c'était, j'ai compris après, des témoins, malgré qu'ils ne sachent pas. Et le manager qui était en face de moi a commencé à me traiter de tous les noms, en disant que je valais rien, que je n'allais pas ceci. Enfin, vous pouvez imaginer tout ce qu'il m'a dit, que j'étais con, que j'étais ceci, que j'étais là. Bon, c'était un entretien normal. Ce qu'il attendait, c'est que je lève le ton de ma voix, peut-être que je donne une gifle. Là, mon sort a été réglé instantanément. Or, avant tout, ils ont essayé de me faire perdre confiance en moi. Et là, c'est à ce moment-là que cette sensibilité m'a apporté d'une ressource. Alors là, comment? J'étais au volant de ma voiture, je rentrais chez moi, un midi, ou le soir, je ne me rappelle plus, non, après la fin du travail, et à ce moment-là, une voix m'a parlé. Alors comment cette voix, je l'ai perçue? Au même titre que vous me parlez maintenant. Alors est-ce que c'était dans ma tête? Est-ce que c'était... Je ne sais pas.
Mais il n'y avait pas d'enveloppe physique?
Non, il n'y avait rien
c'était
autour de
voix.
Moi. J'étais au volant de ma voiture, on m'a parlé. On m'a dit, bats-toi, résiste à toutes ces pressions. Ça m'a fait un drôle d'effet. Et quand je suis rentré à la maison, j'en ai parlé à mon épouse, ça m'a donné confiance, je vous le dis franchement. Mais ça n'a pas changé ma situation. J'étais toujours dans la situation du harcèlement. Et puis...
Oui, mais vous, c'est parce que sans tout ce que vous racontez autour et sans tous les sentiments que vous avez eus, moi, il m'est arrivé la même chose, Jean-Louis. J'ai été harcelée au travail et j'ai été dans une salle, pareil que vous, avec un patron qui m'a dit que j'étais une merde professionnelle.
Ah ben voilà, ben oui, ben on m'a dit pareil.
Voilà. Mais cette voix, je me suis battue. Alors, est-ce que c'est une voix, est-ce que c'est ma propre voix, en me disant non? Voilà, ce nom voilà. Que la voix vous a dit. Et alors, eux, parce que vous dites, ça n'a rien changé pour eux. Mais vous, vous avez changé.
Oui.
Et ça, c'est important.
Oui. Alors, ce que je dois dire aux auditeurs qui nous écoutent,
bien
surtout
sûr,
garder confiance en vous.
C'est, voilà,
quelle que soit la situation
essentiel.
Que vous vivez, on cherche avant tout à vous déstabiliser, on cherche avant tout à vous faire père de vos repères, et on veut vous faire rentrer dans le monde qui n'est pas le vôtre, et le monde dans lequel on vous fait rentrer, c'est que vous êtes nul, que vous n'êtes pas compétent, que vous êtes dépassé, surtout avec la technologie qui évolue, enfin, IBM, là, je crois que tout le monde avait du mal à suivre l'évolution technologique. Un ordinateur, c'était 2 ans, hein, et tous les 2 ans, on changeait de technologie. Alors, si vous voulez mettre quelqu'un en difficulté, vous ne lui donnez plus de cours. Vous lui donnez plus de cours, au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, il est obsolète. Mmh. Et à ce moment-là, vous êtes prêt à accepter du fait que vous êtes obsolète et que vous n'avez plus rien. Mais on vous a mis dans cette situation. Et c'est là qu'il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Il faut garder confiance en vous. Surtout dans tous les domaines, il faut garder confiance en vous. Et encore une fois, je parle du monde invisible que je perçois. Alors bon, nommez-le comme vous voulez, moi ça m'importe peu. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que bon, je ne sais pas ce niveau-là. Toujours est-il que nous avons du monde invisible autour de nous qui nous aide. Alors il nous aide de quelle façon? Par l'intuition. Mmh. Il nous aide de quelle façon? Par cette synchronicité et les belles rencontres, comme vous dites. Et ça, c'est clair que c'est pour moi la signature de mon invisible. Mais par contre, ils ne font rien pour nous.
Quelles capacités se sont révélées après tout ça, justement? Parce que, par exemple, vous commencez le livre en parlant de la compréhension que vous avez, que vous avez des possibilités d'être magnétiseur. C'est arrivé à ce moment-là?
Non, plus tard, beaucoup plus tard.
D'accord.
Parce que la voix est revenue, parce que c'est le paradoxe, il y en a qui ont la clairaudience, qui ont des messages tous les jours. Moi, non. Dans ma vie, j'en ai eu 5 ou 6 et c'est tout. Et depuis, on ne parle plus, ils me font la gueule. Qu'est-ce que je vous dise? Et donc, ce qu'il y a, c'est que nous avons des sensibilités.
Ils vous font la gueule ou ils vous ont donné la force et vous n'avez plus besoin de lui? Peut-être que vous n'avez plus besoin d'eux.
Ah, c'est
peut-être
possible.
Peut-être que la force, vous l'avez.
Vous savez, oui, on a la force, mais on a toujours envie d'un peu d'amour, d'accord, d'affection. Hein, on est tous pareils. Hein. Et ce qui se passe, c'est que nous avons certainement tous des sensibilités latentes à l'intérieur de nous. Alors, beaucoup de gens voudraient qu'on vous explique les sensibilités, mais les gens ne peuvent pas expliquer, il n'y a pas d'école. Toute l'école que nous avons aujourd'hui sont basées sur la rationalité, cerveau droit, allez, il faut apprendre les maths, ceci, cela. Et tout ce qui est parti de la sensibilité, tout ce qui est parti du monde invisible, et j'aurais tendance à dire tout ce qui est dans le monde artistique, c'est plus ou moins banni dans notre société. Et certainement que nos ancêtres, eux, conservaient cette sensibilité. Nous, on l'a perdue.
Alors c'est après... pas facile à normer aussi. On est tellement dans une société de contrôleurs de gestion carrément qu'il faut que nous aussi on rentre dans des cases.
Ah oui, on rentre dans des cases, la finance, tout ça.
Et si on n'est pas dans ces cases-là, et évidemment, et je suis ravie que vous disiez que les artistes aussi ne sont pas dans ces cases-là.
Non,
et
du tout.
Et
alors je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Pour moi, les artistes, c'est les cousins germains des médiums.
Oui, mais je serais assez d'accord.
D'une certaine façon, ils reçoivent une information qui est sur le monde artistique, mais ils ne savent pas d'où elle vient, alors on appelle ça l'inspiration, on appelle ça tout ce que vous voulez. Pour moi, non, c'est clair. C'est-à-dire que...
Quand on voit ce que peuvent peindre les peintres... Bon, Picasso, il a été dans des écoles, mais il y a des fois des peintres qui se mettent à peindre sans jamais avoir eu aucune...
Formation.
Et qui, à 7 ans, ou le mystère de Rimbaud qui écrit, enfin, on parle des poètes, comment Rimbaud écrit à 10 ans des poésies qu'il n'écrira plus d'ailleurs à 40, enfin,
parce
30.
Qu'il était inspiré.
Voilà.
Ou Mozart, qui a écrit, je crois, un opéra quand il était...
Voilà.
Là, on aborde le problème de réincarnation, c'est autre chose.
Ah, on peut en parler. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, ce débat sur l'artiste.
Donc, ce qui est intéressant dans ce monde-là, c'est que nous avons certaines sensibilités que nous perdons. Mais quand même, il faut essayer de comprendre un peu comment nous fonctionnons. Donc, au niveau du monde invisible, il y a 3 secteurs. Donc, il y a la clairvoyance, c'est-à-dire que tout le monde connaît, va voir la dame qui va vous dire l'avenir. Nous avons la clairaudience. Donc, c'est les gens qui entendent des voix. Et puis, nous avons la clairsentience, c'est ce que j'ai. La clairsentience, c'est la perception des ondes. Donc, c'est comme ça, quand je mets mes mains autour de la tête de quelqu'un, autour du corps de quelqu'un, je perçois l'aura. Et là, donc, c'est là-dessus où j'ai été amené après à développer l'aura, parce que
c'est la claire, quoi? Excusez-moi, celle-là.
L'aura.
Non, mais clairvoyance,
clairsentience. C'est très peu connu, la clairsentience. Vous pouvez chercher ça sur Internet, vous verrez. Et la clairsentience est mal définie. On dit que c'est la perception des ondes, mais là, on aborde le monde invisible où j'ai du mal à définir la totalité de cette sensibilité. Alors, cette sensibilité, elle va se manifester par la perception de l'aura, c'est-à-dire, c'est pas l'aura qu'on perçoit, c'est le rayonnement. Mm-hmm. Et après, ben, il faut travailler pour développer cette sensibilité. Mais il y a d'autres sensibilités qui se superposent à cela. Et là, c'est la... On sait. Donc, on peut parler à des médiums dans certaines situations. On va me pousser dans mon retranchement pour pouvoir dire ce que je pense, ce que j'ai perçu, ceci, là. Puis, à la fin, je n'ai pas d'autres arguments à sortir que ça. Je sais. Mm-hmm. Par exemple, je vais voir une personne. Une personne qui est en face de moi, je perçois souvent son niveau de santé. Et puis, le perçois de santé, le niveau de santé à 2 niveaux, avec mes mains. Là, mes mains, c'est sûr, on ne me trompe pas. Et alors, notre mystère, sur photo, on perçoit les énergies aussi. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et ça marche. Si quelqu'un peut m'expliquer comment le rayonnement sur une photo représente la santé de la personne d'aujourd'hui, je ne sais pas. Mm-hmm. Une photo de 10 ans d'âge, on la prend, je perçois comment la personne va aujourd'hui. Mais je ne sais pas expliquer. Alors, à travers toutes ces perceptions, nous avons également cette fameuse perception de sensibilité qui superpose les autres, qui est « on sait ». Et puis après, on peut avoir des flashs. Donc, ça m'est arrivé d'avoir des flashs. Alors là, je m'en méfie énormément. Mm-hmm. Parce que les flashs, pour moi, ils n'ont de la valeur que s'ils se réalisent. Et je ne veux pas rentrer dans le monde de l'extrapolation en disant « moi, j'ai toujours raison ». C'est trop facile, ça. Donc, on ne peut considérer une expérience du monde invisible que si elle se réalise. Le restant, alors, il y a des gens qui vont me dire « mais oui, mais c'était une possibilité, il n'a pas eu... » Bon, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux que ce qui se réalise. Le restant, c'est nul. Alors donc, ce qui est la clairvoyance, je suis très prudent. Parce que je vois des gens qui sont doués en clairvoyance, seulement comme tout le monde, la fois ils sont en panne, et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils font appel à leur raisonnement. Mmh. Et là, ils vous disent des conneries. Enfin, excusez-moi, je suis peut-être vulgaire.
Mais
ils vous disent n'importe quoi.
Choses,
C'est l'histoire de la dame qui va voir une clairvoyance et qui va lui dire, ben voilà, vous allez changer votre vie, vous allez rencontrer un bel homme brun, vous allez refaire votre vie. Bon, elle part avec cette idée en tête, elle croit le premier homme brun qu'elle rencontre dans sa vie, dans la rue, elle dit, ben ça y est, c'est lui. Et non. Mmh.
Non. C'est sûr.
Et là, je ne veux pas supporter la responsabilité de ceux qui font de la voyance. Parce que supporter la responsabilité de la voyance, c'est, une fois qu'on a donné l'événement, c'est assumer la réalisation. Et si vous avez trompé la personne, ça va se retourner contre vous. Et là, on s'éloigne du chemin de la lumière. Là, on s'éloigne du chemin qu'on doit faire sur soi. Là, on est en train de développer l'ego. Parce que là où c'est très important, c'est que le chemin de la sensibilité, il y a deux mondes. C'est pour ça qu'on ne peut pas l'éviter. Donc, on commence à avoir de la sensibilité. Et puis, il arrive un moment où cette sensibilité peut nous servir. Et là, on commence à dire, ah ben oui, ben je vais utiliser ça pour manipuler Pierre, pour manipuler Paul. Et là, on se retrouve comme ceux qui m'ont agressé. Et là, le choix à ce moment-là est l'épaisseur d'une lame de rasoir. Soit vous basculez dans le pouvoir, soit vous basculez dans la lumière. Les deux sont les mêmes. Mm-hmm. Les lois sont les mêmes. Mais on arrive à ce moment-là où on va utiliser le pouvoir à des fins personnelles. On va utiliser le pouvoir à dominer et ce n'est pas du tout ce que je recherche.
On va marquer une courte pause musicale de quelques minutes avec Maurice Ravel pour le Boléro. C'est ce que vous avez choisi pour nous. Et on revient et on tourne un peu les livres, les pages du livre sur les expériences. A tout de suite. Vous êtes toujours sur Radio FM+, dans une belle rencontre avec Jean-Louis Cassin. Et j'ai le plaisir d'être avec Yann à la technique. Yann, merci beaucoup pour ta présence et ta bienveillance de l'autre côté de la vitre. J'aimerais qu'on parle un peu du magnétisme, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, on en parle souvent. Je crois qu'aujourd'hui, indiscutablement, plus personne ne remet en cause le magnétisme, même les médecins. Hein, à l'hôpital, il y a des, on vous dit. Moi, j'ai eu une expérience de zona qui a été complètement arrêtée avec le magnétisme, avec un magnétiseur. Vous pouvez nous en parler un peu, Jean-Louis, de votre chemin de magnétiseur.
Je voudrais parler de ça parce que moi, le magnétisme, j'ignorais totalement ce que c'était. Je vous le dis franchement. Et encore une fois, je reviens sur la voix. Quand elle est revenue, elle m'a dit qu'on allait m'aider à évoluer spirituellement. Parce que moi, j'étais un nain là, dans ce monde-là, j'ai tout découvert, hein, et c'est ce que je veux transmettre au jour d'aujourd'hui. Alors, ce qui est effarant, quand on parle du magnétisme, donc, alors moi, j'ai pris la définition orientale, c'est l'aura, mais à mon avis, l'aura, c'est l'âme des chrétiens, c'est la même chose, c'est ce corps invisible qui rayonne autour de nous. Et là où c'est effarant, c'est que je me suis aperçu que sur 3000 ans d'histoire, au point de vue philosophie, au point de vue connaissance, jamais l'Occident n'a écrit des livres là-dessus. Jamais. À moins du moins, je n'en ai jamais rencontré. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aura? Puisque moi, j'ai découvert tout ça avec mes mains. Alors, l'aura, c'est un corps qui est autour du corps physique, mais ce corps est indépendant. C'est très important. Ce corps est indépendant parce que je le vois se déplacer, notamment au niveau d'un choc. Ce n'est pas le rayonnement magnétique du corps humain qui, lui, serait toujours constant et à la même distance du corps physique. C'est un corps qui est totalement indépendant et ce corps que j'appelle l'aura, qui est autour du corps physique, reflète tout autour de l'être vivant. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Pour moi, le cerveau n'est qu'un élément secondaire. Tout est enregistré dans l'aura. Il m'arrive parfois de voir des scènes antiques autour d'une personne. Bon, ça, c'est une vie antérieure, ça ne peut pas être dans le cerveau. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aura? L'aura, c'est ce rayonnement qui enregistre tout. C'est un film lumière qui enregistre toute notre vie. Et là-dedans, on va revoir donc les trois mondes qui prédisposent dans l'aura. Un, l'aspect physique, dans le corps médical. Alors Nathalie a bien précisé que les magnétiseurs étaient reconnus, notamment au niveau des zonas, parce qu'il n'y a que ça qui arrive à guérir en zona. Mais il y a d'autres maladies qu'on peut guérir. Mais en aucun cas, un magnétiseur doit dire de se passer du médecin. En aucun cas. Nous ne sommes pas compétents pour là-dessus. D'ailleurs, lorsque nous voyons un problème de déséquilibre, pour moi, c'est qu'il s'agit qu'un problème de déséquilibre, eh bien, nous ne pouvons pas donner un nom de maladie. Du moins, moi, je ne connais pas les noms de maladie. Je vais dire à quelqu'un, vous avez mal au dos. Bon, pour moi, mal au dos, ça signifie qu'il y a un problème de jambe ou de bras. Et c'est tout ce que je peux dire. Mais je ne vais pas vous dire ceci ou cela. Si, je pourrais dire s'il y a une sciatique. Parce que ça, c'est sous le talon que je le vois. Alors, l'aura, ça veut dire qu'elle reflète la totalité de l'être physique. Dans son esprit physique, dans son esprit mental, ça c'est très important. Et le monde mental se voit sur la tempe gauche. Et sur la tempe gauche, il y a le trou qu'on appelle le deuil. Et là, je vois les gens qui sont en dépression. C'est très facile à voir pour moi. Et également, nous voyons dans ce monde-là, mais j'en parlerai pas maintenant, les agressions. Alors, monde physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, j'ai appris récemment, qu'est-ce que vous voulez, quand des personnes ont du diabète ou quand des personnes ont du cholestérol, je vois qu'il y a une énergie qui sort sur le côté gauche. Et pour moi, dans ma méconnaissance, je pensais que c'était la rate qui indiquait ça. Et récemment, une amie médecin m'a parlé que tout ça, c'était par le pancréas. Alors j'ai dit, mais le pancréas, il est à droite. Mais non, il est à gauche. Alors moi, écoutez, j'ai découvert que le pancréas était à gauche il y a de ça 15 jours. Donc, qui reflète vraiment l'état de la santé au niveau de ce que je vous dis, le diabète, le cholestérol et tout. Donc là, on va voir une énergie qui va se manifester devant le corps. Alors, que perçoit le magnétiseur qui a la sensibilité des mains? Il va percevoir des trous, des bosses. Et en fonction des trous et des bosses, on va pouvoir apporter une correction. Par exemple, un mal de tête, ça va se traduire par un rayonnement très important, puisque je vais vous parler des chakras. Ces 6 points qui sont importants au niveau de l'aura. Alors on va partir en partant du bas, ben à peu près au niveau du sexe, ensuite au niveau du ventre, au niveau de l'estomac.
Il y a des croquis d'ailleurs dans le livre.
Il y a des croquis dans le livre. Et donc au niveau de la gorge et au niveau du front. Et le 7e chakra au-dessus de la tête, je ne le touche jamais. Pour moi, c'est le point sacré de la personne, je ne le touche jamais. C'est celui qui reflète la sensibilité, c'est celui qui reflète l'évolution. Alors, on va percevoir des trous et des bosses, et en fonction de ça, je vais pouvoir indiquer, ben voilà, vous avez un problème de dos, je perçois un problème de ventre. Alors il faut faire très attention à ce que je peux dire aux personnes, parce que les personnes sont juste inquiètes. Si je dis vous avez un problème d'estomac, ils ont mal, alors Ils ont mal à l'estomac, vous vous rendez compte, ça fait 10 minutes, ils ont mal à l'estomac, ils commencent à s'inquiéter. Au bout d'un quart d'heure, ils pensent qu'ils ont une grave maladie. Au bout de demi-heure, ça, ils ont un cancer.
Donc, surtout s'ils vont voir Internet entre-temps.
Que... non, mais il faut être très, très prudent.
Oui,
très
prudent. Oui, bien sûr, bien sûr.
Je vais peut-être vous décevoir, c'est que les cancers, je ne les perçois pas. Donc au début, entre un mal de gorge et un cancer de la gorge, je ne vois pas de différence. Je vois qu'il y a un problème à la gorge, d'accord. Mais il faut être modeste. Hein. Et dans tout ce parcours, la première chose qu'on doit avoir, c'est la modestie et être humble. Donc on est là pour aider les autres, on est là pour être à l'écoute des autres et on est là pour aider à leur permettre d'avancer dans leurs problèmes. Bon, ensuite, alors je vais voir ces problèmes de... Si je prends un cas complexe, on peut avoir des personnes qui ont l'aura décalée déjà. Alors l'aura, c'est quelque chose qui est autour de notre corps physique, qui est un corps indépendant, je vous l'ai déjà dit. Alors je vais vous raconter une anecdote qui est assez comique. Dans l'Ariège, j'ai une dame qui vient me voir. Et elle me parle comme ça, elle me dit, alors c'est très désagréable, c'est la première fois que j'ai une dame comme ça, j'ai envie d'une chose, c'est de la faire partir, mais bon. Elle m'a dit qu'elle avait un livre qui tournait tout seul dans son salon. Alors les pages tournaient tout seul devant ses yeux, elle ne comprenait pas. Puis elle me dit, mon mari est décédé depuis 3 mois. Ah ben j'ai dit, mais ça c'est un signe, votre mari qui vous indique qu'il est à côté de vous, bon, elles sont parties. Elle revient me voir à peu près un mois après. Elle commence à me dire, ben voilà, il m'est arrivé quelque chose, mais je ne vous le dirai pas. Oh, très agréable. Mais en fait, le livre, il ne tourne plus. Ah bon, ben d'accord. Eh bien, le livre ne tourne plus. Ben, j'ai dit, votre mari a compris que vous avez ça. Et puis, bon, il n'a pas besoin de manifester encore sa présence. Et à ce moment-là, je commence à avoir des sombres, j'éclate de rire. Puis j'ai dit, mais vous êtes tombé. Ben, comment vous savez ça? Ben, évidemment, c'était simple. Quand il y a un choc physique, l'aura reste dans la position initiale. Donc, c'est-à-dire que si l'aura reste sur le côté droit, ça veut dire que vous êtes tombé sur le côté gauche. C'est facile pour moi. Et je lui dis, mais je peux vous dire, vous êtes tombé sur le côté droit. Ah ben ça alors, ah ben ça alors. Je crois qu'elle est repartie dans sa voiture en disant toujours, ah ben ça alors. Je veux démystifier ce monde-là. Ce monde-là existe. Et à l'époque, quand j'étais à Montpellier, j'aurais bien voulu rentrer dans le laboratoire Sanofi pour essayer qu'ils développent une machine pour ça. Mais il va falloir attendre que ça vienne des États-Unis ou de la Russie, évidemment, parce que nous, on est trop cons en France.
Pourquoi vous pensez que les gens sont si frileux d'aller justement sur ce... Parce que,
ils ont peur. Il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur, ils craignent l'inconnu. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Mon médecin à l'époque, il m'a répondu, il m'a dit, mais Jean-Louis, je n'amènerai jamais chez Sanofi parce que tu ne les intéresses pas. D'une part, ça ne s'apprend pas et ça ne se vend pas. Alors, ben voilà, vous avez déjà la réponse du laboratoire.
C'est ce qui est passionnant aussi dans le livre, c'est que vous racontez beaucoup d'expériences. Il y a au moins 20 ou 30 cas devant lesquels vous êtes...
J'en ai sûrement oublié. L'intérêt de tout ça, d'abord, il faut que je vous parle de ce livre. Au départ, je n'ai jamais eu l'intention d'écrire un livre. Je ne suis pas un écrivain, moi. Et puis, j'ai ma petite fille au Canada qui me dit, mais papy, maintenant, tu n'as rien, grand-père. Et oui, je suis un vieux monsieur. J'ai passé 80 ans. Et elle me dit, il faut à tout prix que tu écrives quelque chose pour ta descendance. Alors, j'ai commencé à prendre un stylo, je pensais me limiter à quelques pages. Et puis ça donnait naissance à ce livre. Et là-dedans, j'ai parlé beaucoup d'expérience, parce que je pense que c'est ce qui enrichit le débat, et c'est ce qui permet aux gens de mieux comprendre.
Donc, en revenant sur les magnétiseurs, il n'y a pas deux magnétiseurs qui ont vraiment la même technique ou les mêmes dons?
Non, ce que je pense, alors je heurte beaucoup les magnétiseurs quand je leur dis que moi je perçois les énergies, parce qu'il y en a beaucoup qui ne perçoivent pas les énergies, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas efficaces du tout, sauf qu'on n'en perd pas dans la même manière. D'après Patrick Drouot, si pour ceux qui connaissent un petit peu ce monde-là, Patrick Drouot donnait des cours, bon, enfin il était dans la sensibilité, il nous avait indiqué que ceux qui soignaient au niveau des énergies ça, avec la clairsentience, c'était pratiqué dans le monde antique, et c'était les Esséniens qui le faisaient. Mais tout ça, c'est une connaissance qui a été perdue. Et bon, après, chacun fait ce qu'il veut, quoi, bien sûr.
Après, vous parlez, il y a tout un chapitre qui est consacré aux manifestations du monde sombre.
Ah oui.
Qu'est-ce que vous appelez le monde sombre?
Oui, le monde sombre, c'est très important. C'est-à-dire, de l'autre côté du monde visible, c'est-à-dire, bon, pour moi, la mort n'existe pas, hein, ce n'est qu'un passage. Et de l'autre côté, bon, nous avons des entités, qu'est-ce qu'on lui dit alors? Des entités, des énergies, appelez ça comme vous voulez, et qui se manifestent d'une manière agressive. Le problème, c'est que le monde sombre se manifeste d'une manière agressive. Et là, je crois qu'il faut que je dise deux mots là-dessus. C'est très important. Il se manifeste d'une manière agressive et il veut prendre un peu possession de notre vie et nous orienter dans telle ou telle voie. Alors, je ne sais pas si je vais aborder le problème de l'exorcisme, si je vais aborder...
Je pense qu'on n'aura pas le temps, Jean-Louis. On reviendra, on fera une autre émission là-dessus.
Bon, alors, le monde invisible, je vais vous parler de tout ça, ça c'est très important. Il y a des personnes qui ont des idées captives. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'aura, non seulement elle existe autour de nous, mais en plus... Elle peut être polluée. Et ça, quand j'ai découvert ça, ça m'a fait l'effet de... comment je pourrais dire, d'une révélation énorme.
Et dramatique.
Je peux parler de la rencontre, puisque parmi les expériences que j'ai eues, à l'époque, j'avais une quarantaine d'années, j'étais à Orléans, et une nuit, il y a trois personnes qui sont venues me voir, et je les ai vues dans ma chambre. Évidemment, c'était que des énergies. Donc j'ai vu trois silhouettes, je savais qu'il y avait deux silhouettes d'hommes et une silhouette de femme, et ils m'ont proposé de les rejoindre, et ils voulaient me donner tout ce que je voulais sur cette terre. On m'a proposé le marché de Faust. Mmh. Honneur, argent, femme, tout ce que je voulais sur cette terre. Et je me suis retrouvé assis sur mon lit en hurlant non. Et ils sont revenus trois mois après. Ils m'ont fait la même proposition, mais là, j'avais pris mes dispositions. Ça a été non, ils ont été éjectés de ma chambre. Mmh. Comment des gens comme ça ont pu me percevoir? Je l'ignore. Mmh. Toujours dit que ça existe. Alors, ce monde sombre essaye de chercher à mettre de son côté tous les sensitifs pour plus ou moins orienter, pour plus ou moins diriger l'humanité. Ça, c'est clair. Donc nous avons par exemple en Roumanie, Ceausescu à l'époque qui a écrit le, comment ça s'appelait, le truc zéro, là, enfin il a créé, il a créé un centre de recherche où il prenait les enfants qui avaient des sensibilités, il voulait les élever, vous pouvez imaginer en quel sens c'était. Et donc nous avons certainement au niveau de la planète des organismes qui prennent possession, qui veulent diriger l'humanité de cette façon-là. Et ils y arrivent. Alors, ce monde sombre, il nous agresse et je veux parler des idées captives. Alors qu'est-ce que c'est qu'une idée captive ? Certaines personnes vont se retrouver là-dedans. C'est tellement intime qu'on ne veut pas en parler. On ne peut pas en parler. Parce que vous avez des idées récurrentes dans la tête qui vous incitent, par exemple, à vous suicider. Et vous pensez que c'est votre propre raisonnement. Vous pensez que c'est votre propre personnalité. Vous pensez que c'est de vous. Ce sont des idées qui font parachuter dans la tête. Vous savez, par exemple, dans les idées captives, des gens qui vont être attirés... bon, vous êtes à table, vous avez un couteau, on vous fait voir, vous allez prendre un couteau, vous allez ventrer quelqu'un. On ne va pas parler de ça. Parce qu'on considère qu'on est entré dans une dérive intellectuelle ou une dérive de pensée. On va vous montrer quand vous allez dans une forêt et que vous allez mettre le feu dans une forêt. Et vous, toujours pareil, vous pensez que c'est vous-même. Non, ce sont des agressions. On va vous montrer quand vous ouvrez une fenêtre du troisième étage, vous allez vous précipiter, vous suicider. Encore une fois, ce sont des idées captives. Et là, il faut prendre conscience que ce n'est pas de nous. Il faut prendre conscience que ce sont des agressions et c'est manipulé par ce que j'appelle les frères de l'ombre, qui veulent nous manipuler, qui se repaissent de nos énergies négatives. À l'inverse, les guides... Le monde de la lumière ne vous demandera jamais ça.
Bon, il nous reste que 3 minutes, donc on va un petit peu avancer. Évidemment, vous abordez les flashs du passé et les ressentis. Hein, voilà, on a tous eu à un moment ou à un autre ce truc de dire « j'ai déjà vécu ça ». C'est vraiment, oui. Voilà, ça on l'a tous vécu. Bien sûr, vous parlez de la rencontre avec la lumière. Et puis, vous vous terminez sur justement ces guides. Ces guides qui ont amené à votre évolution spirituelle. J'aimerais vous laisser, vous avez un peu plus de 2 minutes, Jean-Louis, justement, le mot de la fin sur cette évolution spirituelle.
Alors, je n'aurai pas assez de temps pour expliquer cela.
Je sais.
Ma découverte, ça a été un jour de percevoir l'aura, comme je vous l'ai expliqué. Et un jour, à côté de ma fille, au Canada, qu'est-ce que je vois ? Je perçois une seconde aura. Mais il n'y avait pas de corps physique. Et donc, quand on perçoit les décédés, quand je les perçois, je perçois cette énergie qu'est l'aura. Et à ce moment-là, dans ma tête, viennent s'imprimer des images. Ça m'arrive à se permettre d'identifier les personnes. Et là, pour la première fois, j'ai vu ma maman à côté de ma fille. Et en fait, je venais percevoir le premier guide qui venait nous aider. Et ces gens-là, vous devez les appeler. Vous devez leur donner votre souffrance et leur demander de l'aide. Ils sont capables de nous aider. C'est eux qui favorisent les belles rencontres.
Mais entre les guides et les forces sombres... Il y a notre libre arbitre, il y a notre
force. Oui, il y a votre libre arbitre. Mais moi, au niveau des énergies, les guides nous apportent de l'énergie. Donc, c'est-à-dire que nous avons notre aura. Bon, il faut que je le définisse avec plus de précision. Notre aura, donc, nous apporte de l'énergie. À l'inverse, une agression, elle mange l'énergie. Et là, je m'aperçois que les gens n'ont pas beaucoup d'énergie parce qu'elle est mangée par une entité qui vient se fixer dans l'aura, qui ne veut pas quitter la Terre. Et pour continuer à exister sur cette Terre, elle utilise l'énergie du vivant.
Ça, vous sentez que les gens sont en baisse d'énergie généralisée en ce moment ?
Non.
Non, pas
spécialement. Non, j'ai constaté au contraire qu'il y a de ça quelques mois que je dirais que... Non, je suis très confiant sur l'avenir. Hein. Pour moi, l'âge d'or va arriver. Bon, je ne le verrai sûrement pas. Mais je suis très confiant. Donc, j'ai vu au contraire que la largeur de l'aura des êtres humains a un peu augmenté. Ça, depuis l'année dernière. Et pour moi, c'est un bon signe. Après, ben, je fais confiance au ciel. Hein. Il y a tout un tas de choses que je ne peux pas diriger. Je ne peux pas maîtriser. Je ne peux pas prédire. Il faut rester dans l'humilité.
C'est sur ces très beaux mots qu'on va se quitter, Jean-Louis. On se retrouvera. Hein. Voilà, on va prévoir une ou deux autres émissions. Je voulais juste rappeler donc le titre de votre ouvrage qui est « Sur le chemin de la lumière ». et édité aux éditions Nombre 7. Et je salue Christophe Lahondès qui est à la tête de cette maison d'édition. Et donc Jean-Louis Cassin, Sur le chemin de la lumière, expérience vécue, il faut bien le dire, et qui est une réédition d'un livre qui a été paru déjà chez Ciné-Laurent.
Et qui a fait faillite.
Et comment Nombre 7 a récupéré beaucoup de gens de chez Ciné-Laurent, oui, avec gentillesse et générosité. Merci beaucoup Jean-Louis, à très bientôt pour d'autres échanges sur ce monde.
Ah, vous savez, bientôt. J'ai fait des conférences, je peux animer ça, moi, d'une manière... Enfin, bon, je sais le faire.
Voilà. À bientôt pour une autre belle rencontre.
En toute humilité.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.